Bonjour et bienvenue dans votre magazine Ma France, par ici les économies. Notre objectif, vous le connaissez maintenant chaque semaine, vous redonner du pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, on va partir en vacances, ensemble, transport, logement, courses, bon plan. On va tout vous dire avec notre invité. Bonjour Bruno Maltor.
Bonjour.
Vous êtes expert voyage, créateur de contenu voyage, voilà, sur les réseaux sociaux. 3 millions d'abonnés au compteur, hein, c'est ça?
Exactement. Bonjour. Ça fait 10 ans déjà, donc j'ai pas mal baroudé.
Je vous propose pour commencer de répondre à une première question d'auditrice.
Bonjour, c'est Mathilde. Je voulais savoir, j'ai toujours un petit questionnement. Je me demande si il vaut mieux que j'attende la dernière minute pour organiser mes vacances pour avoir les meilleurs prix, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'organise au contraire assez en avance?
Ah, Mathilde pose une question un peu existentielle. Alors on fait quoi? On anticipe ou plutôt dernière minute?
Ça va vraiment dépendre de beaucoup de critères, bien évidemment. Il n'y a pas de réponse parfaite. J'ai envie de dire qu'il y a des bons plans en partant au dernier moment, mais il y en a aussi en partant en réservant à l'avance. Donc ça va dépendre de si on a envie de prendre des risques ou pas. La bonne nouvelle, c'est que j'ai testé plein de choses pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc on va en parler là pour savoir comment faire.
Première chose là, quand on est à cette période, donc fin de l'hiver, j'ai dit moi-même et entendu dire aussi que c'était quand même une bonne période pour réserver parce qu'on peut profiter des tarifs un peu anticipés avec des réductions, c'est vrai?
Ce qui est certain, c'est que ça permet de sécuriser sa place pour les vacances d'été, si on a des dates fixes, etc. Il y a des études quand même qui sont sorties il y a quelques temps qui nous disent que si on veut réserver ses billets d'avion, il faut le faire environ 60 jours avant de partir. Donc, c'est un chercheur japonais qui a fait cette étude qui s'appelle Makota Watanabe. Je l'avais noté parce que vraiment, c'était compliqué de s'en souvenir. Et pour le train, on serait plus sur 11 semaines à l'avance. C'est vrai que le timing peut être important. Aujourd'hui, il y a le yield management qui existe. Donc, ça a été créé par les Américains dans les années 80 qui fait que l'offre et la demande s'adaptent. Il faut faire attention à ne pas réserver au meilleur moment, au pire moment, au moment où tout le monde réserve. Parce que là, les chiffres peuvent grimper sinon.
Bruno Maltor, quels sont vos conseils pour préparer un séjour déjà? Par quoi on commence quand on a décidé de partir en vacances? Ce qui ne concerne pas tout le monde. Il y a 4 Français sur 10 qui ne partent pas, mais on va leur donner quand même des solutions pour pas s'ennuyer.
Bon. Exactement. La meilleure chose à faire déjà, c'est de se poser la question de quand on va partir. Parce que c'est là qu'on va faire de vraies économies. Si on part en mai-juin ou en septembre-octobre, la facture peut littéralement être divisée par 2 versus partir en grande période de vacances scolaires, juillet-août, etc., etc. Donc partir au bon moment, c'est vraiment déjà la première astuce pour payer beaucoup moins cher ses vacances.
Voilà, ça veut dire que si on a la chance de ne pas avoir les enfants à la maison ou les petits-enfants et qu'on peut partir en décalé, l'arrière-saison, l'avant-saison, c'est top.
C'est le meilleur moment. Et en plus, on a tout qui va chuter, que ça soit le transport, que ça soit l'hébergement, que ça soit les activités. Et il y a en plus de ça beaucoup moins de monde. Donc en fait, on y gagne vraiment.
Est-ce qu'on y gagne aussi à essayer d'éviter les zones les plus touristiques? Parce qu'on sait aussi, voilà, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Côte d'Azur, tout ça c'est bondé. Donc j'imagine que les prix montent.
Exactement.
Et si on sort des sentiers battus?
Exactement. Bah, ça, on appelle ça les dupe destinations. Donc c'est effectivement des destinations qui ressemblent à celles dont vous avez parlé par exemple, mais qui sont beaucoup moins fréquentées. Je pense par exemple à Fécamp. Fécamp, à la place d'Étretat. Étretat, on le sait tous, aujourd'hui, c'est vraiment bondé. Peut-être pas trop hors saison, mais dès qu'on y va pendant les vacances, c'est très compliqué.
Et en même temps, c'est magnifique aussi.
En même temps, c'est sublime. Hein, ça fait partie du patrimoine français, bien évidemment. Mais Fécamp, c'est très cool. On peut, par exemple, y aller directement en train depuis Paris. Et il y a des belles randonnées à faire aussi sur les falaises. Et il y a beaucoup moins de monde. Donc, pareil, il y a moins de monde, c'est presque aussi beau ou tout aussi beau. Et en plus, ça coûte moins cher. Donc, pourquoi pas finalement?
Et Bruno, en même temps que vous dites ça, je pense à notre podcast Ici Partir, où alors on peut aller visiter tous les coins de France. C'est gratuit et ça va vous aider. Ça va être un vrai guide touristique pour sortir aussi des sentiers battus. Voilà, ça c'est la petite promo.
Incroyable.
Bruno, le 11 mars, c'est la date d'ouverture des billets d'été de la SNCF. On le note dans les agendas, ça?
On peut le noter si on veut sécuriser sa place, mais attention au prix des billets parce qu'il y a beaucoup de monde qui va se connecter en même temps. Et encore une fois, ça c'est le yield management, c'est l'offre et la demande qui vont s'aligner. S'il y a 2 millions de personnes qui se connectent en même temps, les billets, par définition, ils vont augmenter au niveau des prix. Donc c'est bien si on veut à tout prix sécuriser sa place, mais d'un niveau bon plan, c'est pas forcément le cas, malheureusement.
Mais c'est quand même le moment où les places pour les Ouigo, par exemple, même s'ils ont augmenté, on a pu lire ça récemment, ça reste quand même un bon plan et c'est là qu'elles sont dispo.
Voilà, c'est sûr. Ouais. Encore une fois, si on a besoin de sécuriser sa place pour des dates précises, là, il faut pas hésiter.
On va commencer par les transports et on passe pour ça, pour choisir un billet de train, un avion, par un comparatif comparateurs, par exemple, pour réserver ses billets, c'est bien ?
Exactement. En fait, les comparateurs, comme Trainline, par exemple, ils vont permettre de pouvoir comparer vraiment toutes les compagnies ferroviaires, les italiennes, les espagnoles et les françaises. Alors que SNCF Connect, pour ne pas les citer, ont tendance à plus mettre en avant les trains français.
Logique.
Donc, du coup, il vaut mieux passer par les comparateurs afin de pouvoir avoir accès à toute la database et pouvoir comparer ben, justement tous les billets de train Paris-Lyon, Paris-Marseille, afin d'avoir tous les éléments en main.
Le comparateur que vous venez de donner, c'est
Trainline.
Et ouais. J'ai vu une vidéo d'ailleurs de vous, je crois que c'était 33...
Je teste 33 hacks pour voyager moins cher.
Exactement.
Je me suis levé à 2h du matin un mardi afin de savoir si ça valait le coup de réserver les billets. Spoil alert, non.
Bon, ça valait pas le coup. Ok, vous êtes recouché du coup.
Voilà, exactement.
mais j'ai vu que vous faisiez justement, vous utilisiez un comparateur pour le train et les différences de prix sont impressionnantes.
Ouais, exactement. On parle quand même de dizaines d'euros avec un S à la fin de dizaine. Donc ça peut vraiment valoir le coup de regarder et ça coûte pas plus cher, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder les comparateurs. C'est sur ce genre de choses qu'on va faire de vraies économies.
Donc pour le train, pour l'avion, ça vaut aussi.
Exactement.
Pas, le bateau, j'en sais rien.
Pour l'avion, il y a par exemple Skyscanner. Voilà. Alors attention à l'avion quand même aux frais cachés. J'ai juste précisé ça. C'est vrai que quand on prend le train, on va partir souvent d'une gare, du centre, on va prendre le métro, etc. Quand on prend l'avion, il va falloir prendre soit le RER, soit prendre sa voiture, la gare à l'aéroport. Il va y avoir des frais comme ça qui vont faire très vite grimper la facture. J'avais regardé par exemple un Paris-Barcelone. Alors oui, le billet de train était à 80 euros et le billet d'avion était à une cinquantaine d'euros quand j'avais regardé. Donc c'est 20 euros moins cher sur le papier. Mais en vrai, quand tu rajoutes justement le coût du RER, les coûts cachés comme ça, très vite, ça revient à plus cher finalement.
Donc il faut quand même prendre le temps de vérifier entre le point de départ, c'est-à-dire la porte de la maison, et le point d'arrivée,
exactement.
Là où on va, quoi.
Surtout que quand on prend le train, l'autre avantage caché, c'est qu'on arrive souvent en plein centre-ville. Quand tu arrives à Barcelone, pour revenir sur cet exemple, tu arrives en plein cœur de Barcelone quand il arrive en train, ce qui évite encore une fois des coûts cachés de devoir prendre un bus pour aller de l'aéroport au centre-ville.
Si on prend la voiture, quels sont vos conseils pour éviter de dépenser pour rien ?
Alors, si on veut louer une voiture, j'ai un vrai bon plan. C'est un site qui s'appelle Drive Me, avec deux i dans Drive. Ça permet de louer une voiture d'un point A à un point B pour 1 euro. C'est souvent des loueurs de voitures qui vont permettre ça. Par exemple, une voiture de Paris à Lyon, ils doivent l'amener par définition de Paris à Lyon. Et bon, ils vont permettre aux particuliers de louer cette voiture pour l'amener de ce point A à ce point B. On a juste à payer notre essence et à déplacer la voiture en 48 à 72 heures. 1 euro la location de voiture, c'est plus compliqué.
C'est pas mal.
C'est difficile de trouver moins cher.
On devient convoyeur en fait pour un organisme de location de voiture. Quoi.
Exactement. Et après, si on a sa propre voiture, on peut évidemment faire Blablacar. Donc ça permet de pouvoir diviser les coûts d'essence.
Ça c'est pas mal.
C'est du covoiturage tout simplement. Ouais. Et ça c'est un bon plan aussi.
Donc on a une place libre, hop, on peut la mettre à disposition d'un passager et qui va participer aux frais du déplacement.
Exactement. Et ça coûte, on va gagner quelques dizaines d'euros potentiellement selon la durée du trajet.
Bon voilà, ça c'est intéressant. Et puis vous avez aussi des systèmes comme Cocoli de mémoire où on peut mettre un colis dans la voiture.
Exactement.
D'un point A à un point B, hop, un petit revenu supplémentaire encore.
Et ça marche aussi dans l'avion. Il y a un site qui s'appelle Grabair. Donc c'est un peu la même chose. Par exemple, il y a un Mexicain qui veut qu'on lui ramène un MacBook des États-Unis. Il va nous proposer 200 euros pour amener le MacBook de New York jusqu'à Mexico City.
Grabber.
J'ai déjà vu ça. Ouais, Grabber aussi. Ouais, exactement.
Bon, et ben voilà. Là, ça fait quand même quelques bons plans. On va parler hébergement. Le camping à la côte en France. On adore le camping. Ça, c'est un bon plan budget ?
Ça peut l'être, mais encore une fois, ça dépend de la période. Prendre un camping avec un beau mobil-home en plein mois d'août, honnêtement, on peut aussi se faire avoir. Ce qui peut être un bon plan, c'est plus louer des jardins chez des particuliers, si on est OK à l'idée, par exemple, d'avoir sa tente, etc. Il y a un site qui s'appelle Home Camper qui permet ça. Et donc, c'est littéralement... moi, j'ai pas de jardin parce que j'habite à Paris, malheureusement, très aventure. Mais à une époque, j'habitais en Auvergne, j'ai grandi en Auvergne, j'avais un grand jardin. J'aurais pu louer mon jardin pour que des gens payent 5, 6 euros. Et donc, ça peut être un bon plan, ça, pour le coup. Mais le camping, même si c'est à la côte, parfois, ça peut être assez cher.
Ouais, mais c'est vrai que c'est malin ce que vous venez de donner comme exemple. Il faut aussi faire attention au camping, notamment quand c'est la première fois, on peut avoir tendance à se suréquiper. Vous savez, on a un peu peur d'aller dormir quasiment à la belle étoile, alors on achète.
C'est toujours un problème de se suréquiper, mais même notamment quand on prend l'avion, si jamais vous prenez l'avion, faire très attention à ça avec les low cost. Je vais pas les citer, mais il y en a beaucoup qui vont surfacturer si votre bagage est un peu trop lourd. Et là, c'est des surfacturations à quasiment 100 euros parfois. Donc, il faut vraiment faire attention. Mon conseil par rapport à ça, c'est de prendre un sac à dos, de prendre l'essentiel et de pas s'embêter à prendre 40 t-shirts avec soi. Honnêtement, on va en mettre 3 pendant tout le séjour, donc ça sert un peu à rien.
Toujours côté logement, bon, on peut aussi louer un logement à des particuliers. Il y a plein de plateformes pour ça. Ça, c'est un bon plan.
C'est un très bon plan. Et ce que les gens ne savent pas, en général, c'est qu'on peut négocier les prix. Souvent, les gens qui vont louer leur logement sont des particuliers. Et moi, je fais toujours ça sur toutes les plateformes, que ce soit Airbnb ou toutes les autres. Il y en a beaucoup, comme vous l'avez dit. Je vais envoyer un petit message pour dire bonjour, je trouve votre logement top. Par contre, je suis un petit peu short en budget. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une petite réduction, s'il vous plaît? On m'autorise, dans 99% des cas, 10 euros de réduction par nuit. Okay. 10 euros par-ci, 10 euros par-là. Bah, à la fin du séjour, ça fait des vraies belles économies.
Et toujours sur le sujet hébergement, l'hôtel, la maison d'hôte, on essaie de la trouver aussi par des comparateurs, c'est un bon plan?
Ça peut être un bon plan aussi, effectivement.
La comparaison, c'est quand même pas mal.
La comparaison, toujours, ça permet de pouvoir avoir un gros ordre d'idées. Et après, par contre, les hôtels peuvent aussi proposer des, comment dire, justement, des réductions en allant directement sur leur site.
Ah, oui.
Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours comparer sur les gros comparateurs, Booking, etc. Et après, je vais aller voir sur le site de l'hôtelier directement pour voir si lui ne propose pas une réduction si on passe par lui directement. Et un dernier petit bon plan par rapport aux hôtels, c'est de télécharger les applications, les comparateurs. Je vais parler par exemple de Booking.
Okay.
Booking, il propose des réductions spécialement sur mobile. Et par exemple, ça va être moins 10%, ce qui est énormissime encore une fois sur des réservations d'hôtels. Ouais. Mais ça, c'est uniquement parce qu'ils veulent qu'on télécharge nos applications et ils veulent nous récompenser pour notre fidélité.
Bien sûr, c'est normal. il y a aussi un système que je trouve génial, c'est l'échange de maisons. C'est un vrai bon plan. Bonjour Charles-Édouard Girard.
Bonjour.
Vous êtes justement le président de Home Exchange, qu'on retrouve sur homeexchange.fr, leader ou en tout cas un des leaders du marché. Comment ça fonctionne, Home Exchange?
C'est très simple. À la base, l'échange de maisons, c'est naturellement, c'est pendant les vacances, que vous ayez une maison, un appartement, vous allez faire un échange, c'est-à-dire vous allez aller chez les gens pendant qu'ils viennent chez vous. Voilà. Et donc c'est très simple. Et pour le faire, vous allez sur le site, vous créez votre maison. Donc il y a juste une petite étape de création de photos. Il faut quand même mettre des petites photos et décrire un peu votre maison et qui vous êtes. Et ensuite, vous allez aller faire vos recherches. Vous allez regarder où vous avez envie d'aller. Vous envoyez un petit message. Et c'est là où le côté sympathique de l'échange de maison, c'est que vous allez avoir un contact avec les gens. Et c'est pas des inconnus qui vont venir chez vous, c'est des gens avec qui vous avez parlé, communiqué, et c'est ce qui va vous rassurer aussi, parce que c'est jamais facile la première fois de faire venir des inconnus chez soi.
Oui, et d'ailleurs, pour être tout à fait transparent, moi j'espère partir aux Pays-Bas cet été, et j'échange avec Ruth, on a fait une visio pas plus tard qu'hier soir, pour faire connaissance, parce que c'était sa première fois. Alors, ce que je trouve super dans l'échange de maison, c'est que, on peut faire un échange réciproque, comme vous dites, sur Home Exchange, c'est-à-dire que je vais chez un hôte et la personne vient chez moi en même temps. Mais il y a aussi un système de guest point, c'est-à-dire une espèce de monnaie virtuelle qui permet finalement d'être un peu comme si on louait une maison, mais sauf qu'on utilise une monnaie virtuelle.
Historiquement, oui, on a créé ce modèle-là parce que c'était un petit peu compliqué de trouver des échanges. Je vais prendre l'exemple des Parisiens qui veulent aller en vacances l'été. Il n'y a pas grand monde qui veut aller de la France, qui veut aller à Paris pendant 15 jours l'été. Or, c'est le cas des étrangers. Donc, ça permettait d'avoir des typologies d'échanges qui se faisaient plus facilement. Et donc, on a créé ça. Donc, vous allez... Il y a deux façons d'obtenir des points. C'est soit vous accueillez, soit on vous en donne un petit peu au départ. Et ensuite, vous allez contacter les gens. S'ils sont d'accord, vous organisez un échange réciproque. Et s'ils ont envie d'aller ailleurs, ils vont prendre vos points. Et ensuite, vont utiliser ces points pour aller chez quelqu'un d'autre.
Et la seule transaction, c'est l'abonnement avec Home Exchange une fois par an, 175 euros de mémoire.
Exactement, il n'y a pas de transaction, surtout pas d'ailleurs. C'est ce qui fait la différence avec beaucoup de choses. C'est ce qui fait aussi la qualité des rapports. C'est le fait qu'il n'y a pas de transaction d'argent entre les gens. Et donc, ça crée un univers d'hospitalité qui est assez différent de la location. Parce que c'est pas parce qu'on a payé qu'on a le droit à tout. On est très respectueux, on se sent invité. Et l'abonnement, exactement, c'est de 175 euros par an et vous n'avez rien d'autre à payer, vraiment rien d'autre. Et grâce à ça, vous pouvez faire autant d'échanges que vous voulez.
Non, c'est vraiment super. Alors évidemment, il y a plusieurs opérateurs, mais on voulait vous entendre, vous. Charles-Édouard Girard, merci beaucoup d'être venu sur votre radio locale. Ici, vous êtes président de Home Exchange, donc homeexchange.fr. Merci à vous.
Ici, avec Valère Coréard. Par ici, les économies.
En version magazine, le thème aujourd'hui, partir en vacances, mais sans se ruiner, ça c'est l'objectif. Avec Bruno Maltor, vous êtes expert voyage, créateur de contenu, 3 millions d'abonnés au compteur sur les réseaux sociaux, c'est pas rien quand même.
Et d'un lieu dit 200 habitants, donc ouais, ça met la pression parfois.
Je comprends. nous a rejoint aussi Antoine Lacharmoise, bonjour.
Bonjour.
Antoine, vous êtes directeur général de Turo France, Turo c'est sur turo.com. Quel est le service que vous proposez pour les gens qui partent en vacances?
Alors Turo, c'est la plus grande plateforme de location de véhicules entre particuliers au monde, tout simplement. On est présent en France comme dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou en Angleterre. L'idée donc c'est que un hôte, donc un propriétaire particulier, vous loue votre véhicule à un invité, un locataire qui souhaite partir en vacances, partir en week-end, déménager, et pourquoi pas même chercher dans la location une alternative à l'achat ou au leasing.
Donc, okay,
on répond à différents usages.
Et c'est moins cher que les loueurs professionnels ?
Alors, c'est moins cher que les loueurs professionnels. L'idée, justement, c'est un peu de réinventer la location de véhicules. Donc, on se différencie à différents niveaux. Donc, le prix, oui, bien sûr, on est moins cher que les loueurs traditionnels, en particulier sur la haute saison, clairement, où les loueurs montent très cher leur prix. Nous, on va être... Alors, on fait des études, évidemment, ça peut changer selon les régions et selon le type de véhicule. Mais enfin, on se situe entre moins 20, moins 30% moins cher en haute saison. Après, on se différencie aussi par la sélection. C'est vrai que chez un loueur traditionnel, vous allez louer une catégorie ou un similaire de véhicule. Chez nous, vous avez vraiment la sélection de 1500 marques et modèles. Vous allez vraiment pouvoir choisir la marque ou le modèle qui vous intéresse. Et puis surtout, la simplicité, je dirais, on est digital, donc capacité d'aller simplement réserver sur Internet, pas besoin de passer des minutes ou des dizaines de minutes à un comptoir à attendre un véhicule. Vous pouvez avoir le véhicule qui est livré près de chez vous, à un aéroport. C'est évidemment une discussion qui se fait avec l'hôte. Et cette capacité, voilà, de vraiment réserver très simplement et de prendre le véhicule très simplement.
Et d'ailleurs, j'y pensais là, mais Bruno, tout à l'heure, vous nous parliez un peu des compléments de revenus. Donc, il y avait le covoiturage, il y avait le fait de prendre des colis, Grabber, si je me souviens bien aussi, ça c'était vraiment top. Ouais. On peut aussi louer sa voiture si on ne la prend pas. Si on a deux voitures à la maison, il y en a une qui reste, on peut passer par Turo ou autre.
Ouais, j'imagine. Ouais. Et est-ce qu'on peut faire du covoiturage avec Turo, par exemple ? Est-ce qu'on peut prendre des gens sur la route ?
Alors aujourd'hui, on discute avec des acteurs de covoiturage pour voir aussi comment on peut travailler ensemble. On a vraiment deux services spécifiques. Donc nous aujourd'hui, en effet, on permet à des hôtes qui ont des particuliers, qui ont des véhicules qui finalement utilisent peu ou pas. On sait qu'en général, les véhicules restent 95% du temps dans un parking et donc ils peuvent le louer pour arrondir leur fin de mois, pour amortir les frais quand même de ces véhicules quand même qui coûtent son modèle 3 000-4 000 euros à l'année, donc ça peut être quand même des coûts et donc vous allez venir sur la plateforme poser votre véhicule pour le proposer. Ouais. On a aussi des auto-entrepreneurs aussi qui en font un vrai business, qui ont parfois commencé en tant que particulier puis qui se disent tiens, je vais peut-être louer un véhicule dédié à la location pour en faire un revenu complémentaire. Donc on a vraiment les deux types de profils.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu avec nous, Antoine Lacharmoise. Donc je le rappelle, vous êtes directeur général de Turo France pour louer sa voiture entre particuliers. Le site c'est turo.com. Bruno Maltor, vous êtes expert voyage, créateur de contenu. Avant de nous quitter, vous allez vous prêter au jeu de notre quiz. Donc c'est le vrai faux pour finir avec les idées claires sur ce thème des vacances. Première question, réserver ses billets de train dès l'ouverture des ventes garantit toujours le meilleur prix, ce sera le 11 mars.
Plutôt faux, ça permet encore une fois de sécuriser sa place, mais c'est pas pour autant qu'on va payer moins cher.
Partir hors vacances scolaires permet presque toujours de réduire significativement son budget, vrai ou faux ?
À la 100% vrai, ça permet de réduire sur tous les postes de dépenses, hébergement, transport, activité, vrai bon plan.
Et la balise, ce sont les vacances scolaires, on est d'accord, les dates des vacances en fait.
Exactement.
Tout simplement, moi c'est facile à faire. Ok, le camping coûte systématiquement moins cher qu'une location classique, un hébergement type Airbnb ou autre, vrai ou faux ?
Plutôt faux, ça peut être aussi assez cher le camping, ça va vraiment dépendre des dates, ça va dépendre des campings, donc il faut comparer là-dessus.
Et on l'a dit tout à l'heure, attention à ne pas vous suréquiper non plus, ça ne sert à rien. Les destinations très touristiques sont forcément plus chères que les lieux moins connus, vrai ou faux ?
Ouais, plutôt vrai, hein. C'est vrai que si on va aller en Côte d'Azur par exemple, ça coûtera plus cher que plein d'autres endroits qui sont tout aussi beaux mais moins visités. Encore une fois, c'est une question d'offre et de demande.
On peut ne pas partir loin ou ne pas partir du tout, mais vivre aussi de vraies vacances à petit budget autour de chez soi. C'est vrai ou c'est faux ?
100%. Il faut savoir qu'il y a 4 Français sur 10 qui ne partent pas en vacances, qui ne partent pas très loin, mais il y a plein de choses à vivre en France. On a le plus beau pays du monde, le plus visité aussi. Donc, il y a plein de choses à découvrir. On peut partir à vélo. Il y a par exemple la Fédération Française de Cyclotourisme qui permet de dormir chez justement des compères qui font du vélo. Ça coûte une 20aine d'euros pour rejoindre la Fédération. Et après, on peut dormir chez les gens au fil de son périple à vélo.
Une sorte de woofing en fait, c'est ça ?
Exactement, une sorte de coach surfing à vélo, sachant que le vélo, par définition, ça coûte pas cher non plus, donc ça peut être une aventure à tout petit budget et en plus l'hébergement sera offert. Alors après, on va quand même jouer le jeu et offrir le petit déj à notre hôte ou quelque chose comme ça, mais ça aussi c'est un bon plan. Donc voyager, c'est pas forcément partir au bout du monde.
Bon, vous l'avez compris, Bruno Maltor, il est plein de conseils, d'astuces, expert voyage, créateur de contenu. Merci beaucoup, hein, Bruno, pour vos éclairages.
Alors, merci à vous.
Je conseille une de vos vidéos, on en a parlé tout à l'heure sur le sujet pouvoir d'achat. 33 hacks pour voyager moins cher. Vous tapez
exactement.
Ça sur Google, vous tombez dessus.
Sur ma chaîne YouTube, exactement.
Voilà, j'espère en tout cas que vous qui nous avez écoutés, vous y voyez plus clair et que ça vous a intéressé. Et vous pouvez bien sûr partager l'émission ou la réécouter. Tout se passe sur ici.fr ou sur l'appli. La semaine prochaine, on va s'intéresser à notre consommation d'eau.